quand on donne X% d'equity ou de BSPCE, de donner, enfin dire aux gens, en fait, la valo de la boîte, c'est tant aujourd'hui, donc ça vaut tant ce que je te file.
Ouais.
Notre objectif sur les 4 ans, c'est d'arriver à tant de valo. Donc, en fait, toi, ce que tu peux potentiellement gagner, c'est ça. Enfin, pour bien expliquer de manière simple et claire aux gens comment ça fonctionne. Et c'est, je pense, le meilleur moyen d'utiliser ce levier-là au maximum, sans juste dire, bon, bah, t'as des BSPCE, t'as de l'equity, c'est très bien, mais la personne ne comprend pas trop. Donc, tu vois, je pense que c'est important d'être très clair sur les chiffres, donner les chiffres et expliquer vraiment clairement, simplement comment ça fonctionne.
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Pierre Tranois. C'est bien comme ça qu'on dit?
C'est exactement comme ça qu'on dit.
Parfait. Du coup, fondateur de AdScale, je suis hyper contente de t'avoir et de te recevoir sur Vendu. J'adore AdScale, que vous dégagez une vibe incroyable. Donc, je suis hyper contente de te recevoir. L'idée, c'est qu'on va parler de pas mal de choses. Je vais te laisser d'abord te présenter AdScale, surtout l'histoire de comment tu es arrivé à AdScale, parce que tu as un gros, gros background sales et je trouve ça hyper intéressant pour les sujets qu'on va aborder.
Cool, eh ben, merci à toi Laetitia, merci pour l'invitation, super content d'être là aussi. Donc du coup effectivement moi je m'appelle Pierre Tranois, je suis le cofondateur d'AdScale en 2 mots effectivement comme tu l'as dit j'ai un background assez sales, j'ai démarré ma carrière en tant que BDR il y a de nombreuses années. Ce premier job d'ailleurs de BDR je l'ai fait sans aucune formation au talent, ça marchait moyennement du coup, dans la boîte de mon père à l'époque, qui avait une boîte dans les telcos.
Ah.
Et donc j'appelais, on vendait des solutions de Wi-Fi dans les hôtels. Et donc j'appelais des hôtels pour leur proposer des solutions Wi-Fi. Et puis après, j'ai continué ma carrière dans le sales de manière un peu plus structurée, dans des boîtes un peu plus structurées et plus, voilà, de manière plus professionnelle. Donc j'ai bossé dans le recrutement ensuite, dans une boîte qui s'appelle Uptoo. Qui était une super école de vente pour moi, notamment sur la partie prospection. Et puis ensuite, j'ai fait une bonne partie de ma carrière chez Criteo, où je suis arrivé en tant que sales au début. Je suis arrivé en fait chez Criteo au moment, et ça a beaucoup d'impact pour la suite par rapport à ce que je fais aujourd'hui avec AdScale, mais je suis arrivé chez Criteo au moment où en fait on lançait le département SMB et mid-market pour la région IMEA, et depuis Barcelone, où Criteo a construit un gros hub au fil des années. Et moi, j'étais au tout début de cette aventure-là. Et donc j'ai occupé plusieurs fonctions chez Criteo. Je suis arrivé en tant que sales. Ensuite, j'ai eu des rôles de management, notamment sur le marché français, et puis de manière un peu plus large ensuite sur la région Southern Europe. Et suite à ça, ben, j'ai créé avec mon cofondateur Stéphane, que j'ai rencontré d'ailleurs chez Criteo et qui d'ailleurs était la personne qui m'a recruté au tout début chez Criteo.
Ah, wow.
On s'est rencontré là-bas et puis on a créé AdScale. Et aujourd'hui, donc on a créé à la boîte il y a 4 ans. Notre proposition de valeur, c'est d'accompagner justement des scale-up qui sont dans des phases de croissance importantes dans la structuration de leur département revenu et plus globalement dans l'amélioration de la performance commerciale. Et on fait ça sous plusieurs angles, sur plein de sujets qu'on appelle nos building blocks qui sont des sujets. Donc c'est assez large, hein, ça va de comment est-ce que tu construis la bonne machine de recrutement pour ton organisation sales. Jusqu'à des sujets très vastes de management et de leadership, en passant par tous les sujets indispensables à maîtriser qui sont au milieu, le ramp-up des new joiners, le management de la performance, les sujets sales enablement, sales ops, l'exécution commerciale et puis ce qui vient un peu après la vente, tous les sujets qui sont liés à le account management et le customer success. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait chez AdScale aujourd'hui.
Trop cool. En tout cas, je trouve que c'est ce que vous proposez hyper bien pensé, notamment pour accompagner une boîte, notamment et surtout la structurer. Parce qu'il y a un monde entre quand tu commences à avoir une bonne idée, à avoir ton product market fit, et ensuite quand tu scales, il faut commencer à structurer, à processer, à mettre en place toutes les choses pour pouvoir bien répéter. Et du coup, aujourd'hui, nous, on va parler d'une brique, parce qu'on ne peut pas parler de tout, même si on pourrait faire 1000 podcasts avec toi. On va parler d'une brique qui, pour moi, je trouve hyper importante, dont on ne parle finalement pas tant que ça. Je pense que tout, on parle quand même pas mal, mais sur la partie recrutement. Comment notamment recruter les bons profils en fonction de son modèle économique. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs types d'organisations sales qui peuvent exister. Et tous les sales ne sont pas faits pour toutes les organisations. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc que je vois. Il n'y a pas assez de connaissances ou assez de, même assez de contenu pour dire, en fait, voilà, en fonction de ton organisation, en fonction de ton modèle économique, en fonction de tes paniers moyens, etc., voilà le type de sales que tu devrais avoir. Évidemment, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Winning by Design. Il y a ce type de contenu, mais c'est aussi du contenu pas mal américain. Du coup, est-ce que tu peux donner des éléments, toi, par rapport à tout ce que tu as vu? Parce que ça accompagne quand même beaucoup de... Si tu peux donner quelques noms, mais pas mal de boîtes, quoi.
Ouais, alors je pense que le sujet du recrutement, effectivement, c'est la base. C'est d'ailleurs le premier des building blocks qu'on a dans la chaîne de valeur, parce que tout démarre par là, en fait. Hein. Si tu te plantes dans ton recrutement, derrière, ça a un impact sur tout le reste. Donc, c'est vraiment la base et c'est le démarrage de tout. Je pense que avant de répondre à ta question plus précisément sur les types de profils en fonction de ton organisation, je pense que le truc qu'il faut vraiment rappeler en premier lieu, c'est un écueil qu'on voit dans beaucoup de scale-up, dans quasiment toutes les boîtes avec lesquelles on a bossé, c'est que le point de départ, c'est d'avoir une méthodologie de recrutement. Ça, c'est vraiment le truc indispensable. De la même manière qu'on a une méthodologie commerciale, une méthode sales pour faire des ventes, il faut avoir une méthodologie de recrutement. Et ça, c'est assez peu souvent le cas. On voit souvent des organisations dans lesquelles chacun le fait un peu au talent, au feeling. Chacun le fait un peu comme il le sent à l'instinct. Et pour le coup, moi, on m'a souvent dit dans ma carrière, quand je challenge les gens sur leur manière de recruter et quand je leur demande s'ils ont été formés à ça, parce qu'il faut avoir été formé au recrutement avant d'être bon, j'entends souvent des « non, j'ai jamais été formé, mais j'ai recruté plus de 300 personnes dans ma vie, pas de problème, machin ». C'est très bien l'expérience, mais si tu l'as mal fait 300 fois, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, le premier truc qui est vraiment important là-dedans, dans le sujet du recrutement, c'est avoir une méthodologie de recrutement, faire en sorte que tout le monde dans la boîte la respecte. Hein, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les hiring managers, hein, toutes les personnes qui sont impliquées dans des process de recrutement doivent respecter la méthodo et avoir été formées à ça. Ensuite, effectivement, comme tu le dis, en fonction du segment de marché sur lequel on est, en fait, globalement, le principal critère, c'est ça, hein, c'est sur quel type de segment de marché on est. On est sur du SMB avec de la vente quasi transactionnelle, des cycles de vente très courts et des paniers moyens assez faibles en général. Sur du mid-market, où là on est un peu au milieu, et puis de l'enterprise, en fonction du segment de marché sur lequel on est, effectivement, il va falloir recruter des profils différents. Généralement, sur le SMB et le mid-market, bien souvent, le modèle qui fonctionne bien et qui est bien scalable, c'est de recruter des gens qui sont encore assez juniors, soit qui n'ont pas du tout d'expérience professionnelle et qu'on va former. Donc ça, pour ça, il faut quand même avoir des ressources en interne en termes de layer de management pour pouvoir former ces gens-là. Mais généralement, c'est des gens assez juniors qu'on va pouvoir former à nos process de vente, à notre manière de vendre, etc. et qu'on va pouvoir scaler derrière. Et puis, sur des cycles de vente un peu plus longs, upper mid-market ou enterprise, là, généralement, le modèle qui fonctionne bien, c'est quand même de prendre des gens qui ont déjà un peu de bouteille, hein, des seniors à compte exécutif. Qui sont déjà habitués au cycle de vente long avec plusieurs interlocuteurs sur des paniers moyens assez élevés. Donc là-dedans, il y a aussi du process à mettre. Donc définir la scorecard avant de se lancer dans un recrutement, tête baissée, c'est vraiment définir la scorecard. Quel type de profil on veut? Quel type d'expérience? Est-ce qu'on veut déjà, si on vend du software, est-ce qu'on veut quelqu'un qui a déjà vendu du software ou pas? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit nécessairement vraiment déjà de l'industrie ou pas? Nous, on a pas mal de recos là-dessus et y a souvent des erreurs là-dedans. On veut absolument recruter quelqu'un qui a bossé pour un concurrent. On veut absolument recruter quelqu'un qui est dans le soft depuis 15 ans. C'est parfois la bonne solution et ça peut paraître être rassurant, mais ce n'est pas tout le temps la bonne solution. Tu vois, d'expérience, moi, j'ai vu que moi, les meilleurs sales que j'ai recrutés dans ma carrière et ceux avec lesquels j'ai bossé, c'était bien souvent des gens qui, par exemple, venaient du service. Des gens qui avaient vendu du recrutement. Alors, je ne dis pas ça parce que moi, je suis passé par là, mais je l'ai vu chez d'autres personnes. Tu vois, des gens qui ont vendu du service, qui ont vendu du conseil. Vendre du service, du conseil, c'est très dur. Il faut être très fin dans le discours commercial. Il faut être très rigoureux dans le suivi de la méthode sales. Et souvent, c'est des gens qui, quand ils arrivent sur de la vente de produits tech, sont très à l'aise parce qu'ils ont quelque chose de palpable, enfin, à vendre, ce qui n'est pas forcément le cas du service. Et là, du coup, ils se régalent et ils sont très forts. Donc, pareil pour le sujet de l'industrie, tu vois. C'est pas toujours...
Du coup, justement, je vais te poser des questions, je vais aller plus loin sur cette partie industrie. J'aimerais qu'on creuse un peu plus parce que, en tout cas de mon expérience. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien que tu me donnes des exemples. Mon expérience, quand j'avais ma boîte, j'ai toujours recruté des gens. Alors, dans le conseil, je te rejoins complètement. Mais il y a un moment donné, ou en tout cas, quand il fallait que j'aille beaucoup... Enfin, j'ai vu qu'en termes de run-up, les gens qui arrivaient à s'intégrer le plus facilement, c'était quand même des gens qui avaient été dans la même industrie. Alors, moi, c'était le recrutement, la HR Tech, et donc des gens qui avaient bossé chez Figaro, chez Hellowork, peu importe. Et donc, du coup, ce que j'avais justement vu, en fait, je m'étais dit, ah, conclusion, quand je regarde mes chiffres, c'est eux qui performent, alors pas forcément le plus in fine, mais au départ, c'est ceux qui vont plus vite. Et généralement, en fait, tu as quand même cette pression quand tu es une scale-up de dire, en fait, il faut que mes sales, ok, si j'ai décidé que mon ramp-up, alors pour préciser pour ceux qui sont peut-être un peu plus newbie, c'est le temps qu'il faut pour que un sales soit complètement opérationnel, bah, il faut qu'il soit le plus court possible. Si j'ai décidé que c'est 3 mois, bah, c'est 3 mois. Et je trouvais que les gens qui venaient de mon industrie, ils arrivaient à respecter ça. Pour les autres, ça prenait plus de temps, même si après, je voyais effectivement des résultats meilleurs. Donc, il y a quand même ce dilemme, et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on prend plus dans l'industrie. Je ne sais pas si tu as un truc à ajouter par rapport à ça.
Ouais, carrément. C'est un vrai sujet et je pense qu'il n'y a pas de science exacte sur ce point-là. Et là encore, il faut adapter aussi le recrutement et le type de profil. Est-ce que tu vas chercher des gens qui sont déjà, qui connaissent déjà l'industrie ou pas ? Il faut l'adapter à ton organisation actuelle, à la taille de ta boîte et aux ressources que tu as en interne. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, si tu as assez peu de ressources en interne, que tu es là où le seul manager, tu vois, que tu es directement le CEO, et que tu vois, tu n'as pas de middle management, personne qui peut aider, supporter le ramp-up des new joiners, des nouveaux quand ils arrivent. Effectivement, là, tu vas peut-être avoir tendance à aller chercher des gens qui sont déjà de l'industrie, avec, comme tu le dis, qui auront un onboarding qui sera beaucoup plus rapide parce qu'ils connaissent déjà toute la partie produit-industrie, ils connaissent déjà, donc le ramp-up va plus vite. Donc, il n'y a pas de... Tu vois, il faut l'adapter à ton organisation. En revanche, si tu es dans une orga où... tu as du middle management ou tu as déjà des AE qui sont là depuis un moment et qui peuvent soutenir le ramp-up des new joiners. Dans ces cas-là, moi, j'aurais tendance à recommander plutôt de prendre des gens qui ne sont pas nécessairement de l'industrie, mais qui ont le potentiel pour grandir vite. Effectivement, l'effort, il est plus important au début dans le ramp-up de ces personnes-là parce qu'il y a toute l'industrie knowledge à faire monter, etc. Mais... le gros avantage que je vois sur ces gens-là, c'est que c'est des gens qui n'arrivent pas avec des biais de confirmation, des idées préconçues de « non, dans l'industrie, ça se passe comme ça, moi, je l'ai toujours fait comme ça et ça a toujours bien marché, et donc, je vais le refaire ». On a des gens, en fait, quand tu as des gens qui ne viennent pas de l'industrie, c'est des gens qui sont généralement plus ouverts, tu vois, au début. Alors, effectivement, l'effort, il est plus important, comme je l'ai dit, en termes de ramp-up, mais tu as des gens qui sont plus ouverts, qui ont un niveau de coachabilité qui est supérieur, et une attitude un peu plus humble au démarrage. Et moi, j'aime bien ces gens-là.
Ouais, c'est souvent ce qui est remonté. Et je pense que tu as raison. J'aimerais, alors, on en a parlé un peu en off, donc j'aimerais qu'on aborde ce sujet-là maintenant. C'est notamment sur les différents modèles d'organisation que tu peux voir qui se dupliquent en fait, dans l'ensemble des boîtes sans vraiment une réflexion derrière. Avec ce modèle, il me faut mes SDR, BDR, avec parfois une mauvaise peut-être compréhension de ce que c'est ces postes, account exécutif, donc les types qui sont focus closing, et la partie AM, CSM, peu importe comment on les appelle, et en fonction de la taille d'organisation. Et donc, on a beaucoup de boîtes qui, en tout cas, moi, je le vois et ça fait des dégâts, je t'en avais un peu parlé, qui se disent, OK, je vois toutes les scale-up qui parlent ou qui font du contenu avoir ce type d'organisation, donc c'est ce type d'organisation qu'on doit avoir. Et au final, on se retrouve avec des performances qui sont vraiment pas bonnes. Voilà. Donc, je voulais déjà, en fait, que tu puisses me dire, en fait, justement, quelles sont les erreurs à éviter quand on monte son organisation. Parce qu'il faut y réfléchir. Quel conseil tu donnerais notamment à des boîtes quand elles doivent réfléchir justement à la structure de leur organisation ?
Yes. Alors là, c'est pareil. Je pense que l'organisation commerciale, elle doit être adaptée en fonction du segment de marché sur lequel on est, de la taille des cycles de vente et de la complexité de la solution qu'on vend. Et puis surtout, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'adapter à son niveau de maturité. Alors effectivement, il y a un modèle qui est très connu, qui a été mis en avant par des anciens directeurs commerciaux de ce qui s'appelait à l'époque Salesforce.com et des modèles qui ont très bien fonctionné, qui viennent des États-Unis, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, et qui ont été dupliqués énormément partout dans les scale-up depuis 10 ans, et qui sont des modèles qui fonctionnent bien, hein, qu'on connaît, dont tu as parlé, avec des SDR, des BDR. Alors, la différence entre SDR et BDR, Les SDR, vraiment dans le playbook, les SDR, c'est plutôt des gens qui traitent des inbound, donc des leads entrants. Les BDR, c'est plutôt des gens qui font de la prospection, qui génèrent des opportunités pour des AE sur de l'outbound. Ensuite, on a les account executives, les AE qui sont là pour closer des deals. Derrière, des account managers qui sont là pour faire grossir des comptes. Et puis, potentiellement aussi des CSM qui sont plus là dans un rôle de support, onboarding et support une fois que le client est onboardé. Donc ça, c'est un modèle qui fonctionne très bien, qui fonctionne toujours très bien, sauf qu'il n'est pas possible de le mettre en place à tous les moments de la vie de ta boîte. Et puis surtout, il n'est pas possible de le mettre en place sur tous les types d'organisations. Sur le niveau de maturité pour avoir une organisation pareille, très clairement, c'est un truc qui fonctionne bien dans des organisations qui sont déjà bien matures, dans lesquelles on a un product market fit, dans lesquelles on a certaines déjà certitudes sur la maîtrise de son cycle de vente, etc., etc. Il est évident que, et ça c'est un truc qu'on voit souvent, c'est qu'on a des CEO qui dès le début veulent embaucher 3 BDR, 3 AE, prendre déjà des BDR dès le début, etc. Déjà, ça fonctionne pas, quoi. C'est très difficile d'avoir un modèle dès le départ avec du BDR, de l'AE. Généralement, au début, on est full stack. Donc, tu prends des sales, ils sont full stack. Ils essuient un peu les plâtres sur la prospection, sur ce qui fonctionne bien, sur les ICP, sur les personas qu'il faut adresser, etc. Donc, le niveau de maturité, c'est un premier sujet. Et surtout, le deuxième gros sujet, et il est vachement d'actualité depuis un an et demi, on n'est plus dans une phase où les scale-up sont dans des logiques de croissance à tout prix, où on veut grossir le plus vite possible, recruter plein de sales, etc. On est plutôt, et même carrément, maintenant, dans un modèle de profitabilité. Et donc, ce facteur-là, il est super important dans le choix du modèle. Est-ce qu'on fait du BDR AE ou est-ce qu'on fait de l'AE full stack? C'est-à-dire qu'un modèle déjà où on est sur des ACV, donc des paniers moyens à l'année qui sont en dessous de 20 000 euros, le modèle BDR AE, il est très difficile à faire tourner. Parce qu'en fait, on a plus de ressources pour signer un seul deal et qu'en fait, c'est très dur d'être rentable sur un modèle comme ça si on n'a pas des paniers moyens d'au moins 20 000, 25 000 euros, quoi, tout simplement. Ou alors, il faut faire un volume de vente qui est vraiment énorme. C'est un modèle qui tourne bien sur des ACV qui vont au-delà de ça. Mais vraiment, le truc à prendre en considération, c'est ça. C'est sur quel segment de marché on est, quelle taille de deal on vend, quels sont les paniers moyens. Et en fonction de ça, on peut avoir un modèle BDR, AE, CS ou pas, ou plutôt du modèle full stack. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous, on travaille énormément aujourd'hui avec nos clients. C'est le passage d'un ancien modèle, enfin d'un modèle BDR, AE, à de nouveau un modèle AE full stack. Et derrière ça, il y a plein de challenges parce que les AE d'aujourd'hui, au risque de passer pour un vieux schnock, mais les AE d'aujourd'hui ne savent plus prospecter, ne veulent pas le faire. Et donc, ça pose pas mal de problèmes organisationnels, change management, etc. Quoi.
Après, pour leur défense, ils n'arrivent pas au bon moment pour apprendre à prospecter.
C'est vrai.
Mais oui, t'as raison. Du coup, ça fait une bonne transition notamment pour parler, parce que justement, on parle de cette attention à avoir sur le panier moyen et le fait que quand on a des organisations hyper segmentées, on a un problème de rentabilité, notamment parce que y a quand même des rémunérations à donner sur chacun des sales. Donc, bonne transition pour parler du modèle de rémunération. C'est un sujet qui fait énormément débat à chaque fois. À chaque fois qu'on en parle, toujours quelqu'un qui s'énerve pour dire pas de variable, du variable, du bonus, il faut donner peu en fixe, etc. Donc souvent des choses un peu caricaturales. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse discuter de ça, comment structurer la rémunération de ces commerciaux, à ton avis. Je sais que tu mettras pas mal de nuances, variable, pas variable, ratio fixe, est-ce qu'il y a un minimum affilé, très juste. Mais je pense que
Sur le sujet du package global des sales, ça, c'est difficile d'avoir une réponse un peu qui va à tout le monde parce que ça va dépendre, toujours pareil, du niveau d'expérience. On en a parlé un peu avant, donc ça dépend. Après, sur la décomposition du package dans sa structure, je pense que sur des métiers commerciaux, il n'y a pas trop de doute sur le fait que nécessairement, il faut qu'il y ait une part de variable et une part de variable qui soit quand même assez importante. C'est assez commun, typiquement, notamment sur des profils enterprise aujourd'hui, c'est quand même pas rare de voir des ventilations 50-50. C'est peut-être un peu moins le cas sur des profils un peu plus juniors, mais globalement, il ne faut pas hésiter à être assez agressif sur la part variable. Alors bien évidemment, ça c'est toujours le même sujet, il faut que le variable soit atteignable, il faut que le target setting soit bien fait pour donner confiance aux sales et faire en sorte qu'ils gagnent de l'argent et qu'ils soient poussés à la surperformance. Mais sur le modèle de rémunération, sur les fonctions commerciales, il n'y a pas de doute que quoi qu'il arrive, il faut avoir une structure fixe plus variable. Il y a des boîtes assez connues dont on taira le nom qui se sont targuées pendant des années de dire bah non, nous, on a un modèle qu'avec du fixe, sans variable pour nos sales, etc. etc. Ça fonctionne très bien, on n'a pas de layer de management, c'est génial et tout. Ces gens-là, moi, je sais qui c'est, ils en sont revenus de ces modèles-là. Tout le monde, à un moment donné, en vient à mettre un modèle en place fixe plus variable pour ses sales, si tant est qu'on ait envie de grossir et si tant est surtout, enfin, le vrai sujet derrière tout ça, c'est quel niveau et quelle culture de la performance on veut mettre en place au sein de ces équipes. Et si tu veux mettre en place une vraie culture de la perf au sein des équipes sales, et c'est généralement des populations qui sont quand même drivées par la perf, je pense que c'est le débat sur variable, pas variable, il est vite entériné, quoi.
Ok.
Selon moi.
Bah, très clair. J'ai une question, après je reviendrai un petit peu sur ça, qui
ouais.
a toujours, je ne sais pas si c'est des choses que tu vois souvent, mais m'a parfois, en tout cas, posé des problèmes. C'est la communication sur ce variable-là. Que ce soit au moment où, en fait, tu recrutes la personne, c'est toujours délicat, tu vois, justement, quand tu recrutes la personne, elle te pose forcément des questions sur le variable. Alors, parfois, tu es très confiant sur ton package et tu sais effectivement que tes objectifs, ils sont atteignables, mais il faut que tu arrives à donner confiance à l'autre. Quelles sont, toi, les techniques que tu donnerais justement pour donner confiance? Et surtout, alors, dans ce cas-là, et quand tu ne peux pas, parce qu'à un moment donné, il y a la vraie vie, hein, tu n'as pas confiance, mais tu te dis, écoute, si je me donne les moyens, on va arriver à ces objectifs-là, mais tu ne sais pas effectivement s'ils sont atteignables ou pas, et des moments, tu es obligé de faire des paris, en fait, quand tu fais du sales.
Ouais.
Comment tu gères un peu ces situations-là?
Ben, je crois que le premier point, c'est d'être archi transparent sur la data existante, déjà, des gens qui sont déjà là. Quand on a des gens en entretien et qui nous challengent sur ouais, mais est-ce que le variable, ok, cool, est-ce qu'il est atteignable, machin, les targets et tout. Je pense qu'en fait, il faut être transparent sur donner, par exemple, il y a un tip, ce qui est très simple à faire, c'est donner le niveau d'achievement moyen de l'équipe sur les 12 derniers mois. Et ça prouve, tu vois, enfin, si tant est que le target setting a été bien fait et que les gens ont réussi à toucher leur variable. Je pense que ça, c'est le premier truc à faire, c'est être transparent sur, bah voilà, nous, sur les 12 derniers mois, la team a atteint X% de sa target, et donc du coup, les variables ont été touchées. Le top performer, il a fait 150%, celui qui a moins bien performé, il a fait 65%, en moyenne, on est à temps. Donc, donner les datas, être transparent sur les datas et sur le niveau de performance actuel de l'équipe. Et ça, d'ailleurs, c'est un conseil pour les gens qui recrutent, mais c'est surtout un conseil que je donnerais plutôt aux candidats, c'est challenger les gens qui vous interview sur ça, sur quel est le niveau d'atteinte moyen des targets sur les 12 derniers mois. Alors après, le fondateur ou le manager peut toujours mentir, mais là, dans ce cas-là, on rentre dans un process malhonnête. Mais en réalité, c'est ces sujets-là qu'il faut adresser, quoi. Et ensuite, si on voit que ça ne fonctionne pas, en réalité, en fait, ce sujet-là du variable et du comp plan, il est toujours allié avec le sujet du target setting. Quel type de target on met? Comment on construit le target setting? Et ça, je crois que c'est un sujet aussi de communication, que ce soit avec des gens qu'on a en entretien qui vont rentrer dans la boîte ou des gens qui sont déjà là, mais pour lesquels on change le target setting pour une raison ou une autre. Parce que le target setting, en fait, il est amené à évoluer en fonction de la croissance de la boîte, des différents stades d'évolution. Il y a des moments où on veut plus pousser sur l'acquisition de nouveaux business. Il y a des moments où on veut plus insister sur la rétention et faire grossir les comptes déjà existants. Donc, en fonction de la stratégie de la boîte, le target setting, il peut évoluer. Il ne faut pas qu'il change trop souvent, parce que c'est toujours un sujet de tension et d'anxiété pour les sales. Mais par contre, il est amené à changer. C'est normal qu'il change. Mais dans ces cas-là, il faut expliquer de manière très précise et très transparente le rationnel derrière la volonté et ce qui amène au changement sur le target setting. Donc, voilà, il faut être honnête avec soi-même, construire un target setting qui soit cohérent et qui ne soit pas complètement déconnant et être transparent sur les chiffres, quoi.
Trop cool, t'as anticipé ma question parce qu'effectivement, il y a quand tu changes les règles de distribution de ton variable pendant la vie d'un sales et souvent il y a aussi très peu de choses là-dessus. Ok, maintenant on va parler plutôt de la partie equity. C'est un truc qui est quand même pas mal dans les boîtes, cette petite carotte qu'on donne aux gens, etc., qui aussi a fait pas mal écrire. Est-ce que tu penses que c'est un vrai réel outil de motivation pour les startups? Est-ce que c'est bullshit pour les candidats? C'est quoi ton... Voilà, c'est quoi ton...
Non, bah, mon avis là-dessus, Mon avis là-dessus, c'est que je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense que, enfin, moi, j'aime bien, alors ça n'engage que moi, mais j'aime bien les modèles où, en fait, tous les employés de la boîte, à un moment donné, ont un niveau d'equity qui va varier en fonction de leur niveau d'expérience et du niveau auquel ils sont dans la boîte. Mais je pense que c'est un moyen super sympa d'embarquer tout le monde dans le projet entrepreneurial dans lequel on se lance en tant que CEO, en tant que cofondateur de boîte. Je pense que c'est aussi un super moyen de conserver les gens sur la durée, parce que bien souvent, quand on met en place un système d'equity, y a ce qu'on appelle un cliff avec une période de vesting. Il faut rester un certain moment dans la boîte pour pouvoir toucher, avoir accès à cet equity. Je pense que globalement, c'est une bonne chose, ce système, enfin, de donner de l'equity à tous ses employés, ou en tout cas à une bonne partie des employés, c'est une bonne chose. Par contre, une fois de plus, il faut être super clair et super transparent dans l'explication de comment ça fonctionne. Et moi-même, étant plus junior, j'ai pris des jobs où j'avais compris qu'il y avait de l'equity. J'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Je n'ai pas osé demander, tu vois, en entretien à l'époque, quand j'étais plus jeune. Et donc, du coup, le truc est un peu fluffy. Et en fait, l'effet, tu vois, qui est l'effet normalement numéro un donne de l'equity pour faire grandir les gens et les garder longtemps dans la boîte, en fait,
Il marche pas.
il marche pas parce que les gens, ils ont pas compris, en fait,
Et ça
comment ça
crée
fonctionne.
ça crée la défiance. Du coup,
Exactement.
je passe dans un rendez-vous, je pourrais te proposer de l'equity, donc ça peut être dans la négociation pour le package, mais les gens se disent, voilà,
C'est
donc
bullshit, ouais.
c'est bullshit. Du coup, ouais, effectivement, être hyper pédagogue sur ce sujet-là,
Exactement.
de dire effectivement quand est-ce les gens. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est savoir si un jour ils auront de l'argent et s'ils auront de l'argent, à quelles conditions? Parce que parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais du coup d'être hyper transparent là-dessus.
Ouais.
Ça peut marcher comme ça peut pas marcher, mais si ça marche, ça sera toujours mieux qu'un super variable, peut-être tes deux cas de plus que tu veux de variable, j'en sais rien, hein,
C'est
mais voilà.
exactement ça, mais c'est vrai que c'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est important de bien expliquer comment ça fonctionne. Quand on donne X% d'equity ou de BSPCE, dire aux gens, en fait, la valo de la boîte, c'est tant aujourd'hui, donc ça vaut tant ce que je te file. Notre objectif sur les 4 ans, c'est d'arriver à tant de valo. Donc, en fait, toi, ce que tu peux potentiellement gagner, c'est ça. Pour bien expliquer de manière simple et claire aux gens comment ça fonctionne. Et c'est, je pense, le meilleur moyen d'utiliser ce levier-là au maximum, sans juste dire, bon, bah, t'as des BSPCE, t'as de l'equity, c'est très bien, mais la personne ne comprend pas trop. Donc, tu vois, je pense que c'est important d'être très clair sur les chiffres, donner les chiffres et expliquer vraiment clairement, simplement comment ça fonctionne.
Ok, nickel. On a parlé de recrutement, on a parlé de modèle de rémunération. Là, l'idée de la next step, c'est qu'on parle un peu d'onboarding parce que c'est
Ouais,
clairement ce qui
ouais.
fait que ton recrutement est réussi ou si tu as perdu de l'argent. C'est quoi de tout ce que tu as vu, les conseils que tu donnerais pour préparer. Il y a un gros problème, je trouve. Alors peut-être que je suis biaisée, j'en sais rien, peut-être parce que forcément, les boîtes dans lesquelles j'interviens, c'est celles qui vont pas bien. Mais pour préparer efficacement, j'ai l'impression que les gens ont des problèmes pour savoir préparer des onboardings. Ils ne savent pas trop quoi faire, quoi mettre
Ouais.
dedans, quoi faire. C'est quoi les conseils que tu donnerais, toi, là-dessus?
C'est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux, l'onboarding, parce que les premiers temps dans la boîte pour une personne, c'est vraiment c'est primordial, quoi. Les premières semaines, les premiers mois, c'est la phase la plus importante qui va bien souvent conditionner la suite. Donc, cet onboarding-là, à la fois dans sa structure et dans son contenu, il faut bien le préparer. Il faut avoir un programme d'onboarding. Et ça, on a tendance à croire que c'est uniquement quand on a atteint un certain stade, une certaine taille de boîte qu'il faut le faire. Mais non, en fait. Dès les premiers employés, il faut avoir un onboarding. Alors, il faut pas que le truc soit trop compliqué. Il faut qu'il soit simple, mais il faut qu'il soit clair, qu'il soit préétabli. Il faut que ce soit l'onboarding, il commence avant que les personnes arrivent. Donc, il faut communiquer le programme aux gens avant qu'ils arrivent, leur expliquer comment ça va se passer. Il faut, dans le cadre, voilà, on parle souvent des populations sales. Là, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais s'il y a une liste de prospects, il faut qu'elle soit prête avant que la personne arrive. Pour qu'elle soit vraiment up and running dès les premiers jours, il faut dédier bien évidemment du temps à ces gens-là, aux new joiners. Il faut utiliser aussi les ressources, je reviens là-dessus, mais utiliser les ressources qu'on a en interne, assigner un buddy ou un mentor, un peer qui sera là pour répondre aux questions, même les plus simples au début. Donc ce truc-là, il faut vraiment bien le préparer avant que la personne elle arrive. Donc ça commence avant que la personne arrive. Et une fois que la personne est là, je pense qu'il y a deux sujets qui sont vraiment super importants. Alors déjà, globalement, il faut vraiment considérer la période d'onboarding comme une période qui va durer 6 mois et pas 1 mois ou 2, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois ou 3 mois. on a des périodes d'essai en plus qui sont là pour aider à faire ce truc-là. Mais globalement, un onboarding, ça dure 6 mois. Et pendant ces 6 mois-là, il faut mettre les efforts. Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur les trainings au début, les 2, 3, 4 premières semaines. Beaucoup de temps qui sont passés par les first line managers avec les gens sur les premières semaines. Et après, ça baisse. Non, en fait, les efforts que tu mets au début avec les new joiners, ils doivent être les mêmes du mois 1 au mois 6. Il faut que, en fait, au bout de 3 mois, tu sois absolument certain déjà de savoir si tu vas valider la période d'essai ou pas, quoi. Et dans cette phase d'onboarding, du coup, pour savoir exactement où est-ce qu'on en est, il y a deux sujets qui sont vraiment primordiaux. Si on parle de population sales, c'est à la fois valider la partie quantitative, donner des guidelines très précises au début sur ce qu'on attend de la personne en termes de volume d'activité, en termes de nombre de comptes à signer sur le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, etc. Donc, être très clair sur les objectifs quantitatifs. Et puis, le deuxième sujet à valider, c'est la qualité, en fait. Donc, ça se fait via des KPI, des taux de conversion. Mais pour s'assurer que la qualité soit au rendez-vous le plus tôt possible, bah, c'est passer du temps, faire du roleplay, beaucoup de pratiques, mettre les gens sur le terrain le plus tôt possible, même s'ils n'ont pas toute la maîtrise au début, c'est pas grave, on apprend sur le terrain, sur le tas aussi, c'est la meilleure manière d'apprendre. Donc vraiment valider ces deux sujets-là, la qualité et la quantité, et ça se fait pas en 2-3 semaines, ça se fait en 6 mois pour moi. Donc vraiment considérer cette phase d'onboarding comme une période qui dure 6 mois.
Oh, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai que... alors, pour tous les métiers, tu penses, BDR, AE, AM, évidemment, pour tous, tu mettrais...
Ouais. Ok. Ouais. Et même plus pour les managers, tu vois, quand on fait du recrutement de manager ou qu'on fait passer des contributeurs individuels sur des rôles de manager, là, c'est pas 6 mois, c'est quasiment 2 ans, en fait. Avant de devenir un vrai bon people manager, ça prend 2 ans. J'en parle assez souvent de ce sujet-là, mais sur les rôles de management, c'est encore plus crucial, quoi.
Ok. Bah, pour moi, la question que j'aimerais te poser, c'est justement sur cette partie KPI. Généralement, oui, tu l'as dit, il faut définir les KPI et à quel moment, au bout de 3 mois, tu vas garder ou pas la personne. Je trouve que ça, c'est très difficile. Là, je te parle, là, le côté, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'à des moments, tu es pris par 3 sujets. Un, effectivement, bah, ta croyance du début, de dire, en fait, ce profil, il est bon. Et tu peux te dire, en fait, tout le monde n'a pas le même, même si tu as créé un onboarding, tout le monde n'a pas le même, la même vitesse de croisière. Moi, ce que je remarquais beaucoup, c'est... une montée et ensuite un peu une espèce de dépression et après une remontée, mais cette dépression elle peut durer quand même un peu pas mal de temps, genre putain j'arrive pas, j'ai pris trop de shoots d'informations, faut que je me mette, etc. et des gens ça dure longtemps et parfois t'as un peu cet espoir de dire bon là sur les 3 mois on n'est pas encore, mais je vais continuer à poursuivre, ce qui a été parfois des réussites, parfois pour moi des erreurs. Donc j'aimerais juste savoir si tu peux me dire, est-ce qu'à partir du moment ou si je mets en place des KPI en me disant à 3 mois, mon sales doit être là, quoi qu'il se passe, c'est dehors ou où tu peux avoir une espèce de flexibilité. Je sais que c'est pas aussi, tu veux trancher, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Parce que parfois, on peut plus se dire, ouais, j'aime bien cette personne, puis il y a de l'humain hein, dans une équipe. Donc voilà.
Bien sûr, carrément. Bah là, il y a plein de trucs à observer. Alors effectivement, il y a les résultats. Et là, je pense que comme tu l'as dit, c'est indispensable de mesurer le progrès de la personne sur ses premiers mois. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Bah, y a deux, enfin, le principal truc, c'est d'avoir un référentiel par rapport à l'existant et ce qui s'est passé dans le passé. Tu vois, on voit qu'en moyenne, la première opportunité, normalement, on doit pouvoir la générer après tant de jours. Le premier deal, il est signé. Après 3 mois, on a signé tant de deals. Donc ça, il faut le traquer. Et à chaque nouvelle personne qui arrive, il faut traquer ses résultats, ajouter ça dans le référentiel et avoir vraiment, tu vois, une unité de mesure pour savoir si on est on track, si on est au-dessus ou si on est en dessous. Après, si on est en dessous, là, en fait, il y a plein de trucs à regarder. Il y a effectivement, est-ce qu'on est déjà bien sur le volume d'activité? Ça, c'est le premier truc à regarder, tu vois. Et ça, c'est assez binaire, hein. C'est oui ou c'est non. Si c'est oui, tant mieux. Et dans ce cas-là, bon, le problème, il est ailleurs. Si c'est non, bah, en fait, c'est juste un problème de time management, d'organisation, etc. Après, il y a un autre sujet qui est moins lié directement à tu vois, la capacité sales ou des trucs comme ça. C'est le niveau de coachabilité et l'attitude. Et effectivement, il y a des gens qui mettent un peu plus de temps, qui, au lieu de signer leur deal, tu vois, au bout du deuxième ou du troisième mois, vont signer au bout du quatrième ou du cinquième, mais qui montrent, tu vois, une phase de progression forte parce que très bonne attitude quand tu fais des coachings avec eux, très bonne attitude quand tu leur fais des sessions de feedback après un roleplay. Alors, bien évidemment, ça ne fait pas tout. Il faut qu'à un moment donné, le truc se débloque. Mais je pense qu'il y a un peu un mix de ces deux trucs-là. C'est vraiment checker de manière très pragmatique et mesurée par rapport à ce qui se fait d'habitude et par rapport à ce qui est normal, entre guillemets, en termes de rapidité de ramp-up, comment ça se passe. Et si on n'est pas au résultat, c'est en fait essayer d'assesser le plus rapidement possible le niveau de potentiel de la personne et est-ce que dans les 2 ou 3 mois qui suivent, elle va pouvoir se remettre en track. Et puis à côté de ça, il faut avoir un accompagnement déjà. Tu vois, s'il y a déjà des plans de coaching à mettre en place dans les premières semaines, on le fait. Mais généralement, sur des populations sales, très rapidement, à mon avis, au bout de 2 ou 3 mois, on sait si la personne va au moins passer sa période d'essai si on fait tout ça bien, quoi. Normalement, on le sait.
Yes, nickel. Je voulais juste qu'on revienne peut-être un petit peu sur les erreurs à éviter dans un process d'onboarding. Tu as dit quelque chose de très juste qui est généralement les gens mettent le paquet, et même parfois c'est un peu trop dès le début. Il y a trop de choses, etc. Et beaucoup moins après. Ça, je trouve ça hyper intéressant, mais parfois tu as un peu une friction. Donc je ne sais pas si tu as
Ouais.
pu le voir avec les gens que tu as recrutés au bout de 3 mois qui ne veulent plus faire de roleplay parce qu'ils disent bon, c'est bon, je sais déjà faire. Quand tu vas écouter leurs records, etc., etc., vont pouvoir moins bien prendre leur feedback à un moment. Et surtout en termes de seniorité, pour des profils un peu plus seniors, ça ne va pas marcher. Pourtant, tu sais que. Sur des seniors, il y a toujours des trucs à travailler. Enfin, tu vois, genre, même si un profil est bon, il y a des moments où, évidemment, tu ne vas pas aller checker sa discovery, on n'en est pas là, mais tu vas peut-être checker des moments où le gars perd le lead sur un deal, ou comment il surmonte l'indécision de ses différents interlocuteurs, surtout sur de la vente complexe. Enfin, voilà, il y a toujours des choses à voir. Comment tu fais pour que ce soit un peu, dès le départ, tu vois, en mode, écoute, en vrai, je ne vais pas te lâcher pendant 6 mois, donc tu sois content ou pas? Je dis ça parce que moi, j'ai beaucoup de trucs que j'avais, je pense, pas réussi. Et du coup, les gens se disaient, bon, c'est bon, quoi. Tu vois, ça fait 4 mois que je suis là. C'est bon, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, justement, pour que la personne sache que dans 6 mois, elle va refaire des replays. Elle va peut-être être confrontée. On va peut-être la continuer à la challenger tout le temps. Et c'est normal, c'est dans la culture de la boîte, quoi.
Ouais, et ben en fait, un peu comme tu l'as dit juste avant, alors faut peut-être pas le dire de cette manière-là, en mode je vais pas te lâcher pendant 6 mois,
Non,
mais
mais.
en gros, le message, c'est un peu ça, tu vois. C'est d'annoncer dès le début quelles vont être les différentes phases de progression que la personne va avoir. Donc, tu vois, ça commence, nous, ici, chez machin, dans notre boîte, on considère que le ramp-up, c'est 6 mois. Donc, pendant 6 mois, ton programme d'onboarding, ça va être ça. Donc, au début, tu as les trainings, après, tu as ça. Donc, expliquer quelles sont les différentes phases. On fait des roleplays, etc. Je pense que c'est important d'expliquer aussi ce que tu fais avec les autres membres de l'équipe qui sont là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et ça, du coup, en fait, c'est un peu plus global et c'est un peu plus high level. Et ça dépend pas que de la personne, tu vois, et c'est pas que lié à son cas individuel, mais c'est lié aussi aux bonnes pratiques que tu mets en place avec le reste des membres de l'équipe, tu vois. Si le new joiner, il voit que toutes les semaines, tu continues de faire des coachings avec des gens qui sont là depuis déjà 2 ans ou 3 ans, que toutes les semaines, tu fais des coachings collectifs, des sessions de coaching collectif et des roleplay collectifs avec l'ensemble de l'équipe, y compris les gens qui sont là depuis 3 ans, 4 ans, etc. Ben en fait, la personne va comprendre qu'elle entre ici dans un environnement où on est sur un process de learning en continu, un process de training et de développement en continu. Et donc, elle ne rechallengera pas 3 à 4 mois après quand tu continueras de faire des roleplay avec elle. Au contraire, elle va trouver ça normal. Et normalement, elle devrait apprécier le fait qu'en fait, on passe du temps avec elle, tu vois, pour faire le truc. Mais je pense que le montrer qu'on le fait avec les autres, y compris, et ça c'est un vrai sujet aussi, y compris avec les top performeurs, et pas que avec les gens qui réussissent moins bien, en fait, la personne va voir que c'est normal, qu'ici ça se passe comme ça, et je pense que ça fait partie aussi de la proposition, de valeur en tant qu'employeur, en tant que CEO, en tant que manager, quand on recrute des gens, de leur proposer, tu vois, de la formation, et du training continu, du développement personnel continu. Je pense que ça fait partie aussi de la, tu vois, de la promesse qu'on se doit tous d'avoir quand on recrute des new joiners. Et ça fait
Complètement.
partie des trucs qu'on doit leur vendre aussi. C'est que, grosso modo, aujourd'hui, tu rentres dans ma boîte, génial. Je sais très bien qu'à un moment donné, tu vas partir de ma boîte. Mais entre le moment où tu arrives et le moment où tu veux partir, moi, mon rôle, en tant que manager, en tant que CEO, en tant que quoi que ce soit, qui te recrute, c'est de faire en sorte que tu sois bien meilleur au moment où tu pars. Et c'est un peu la fierté que tu as, tu vois, quand tu vois que tu as quelqu'un qui a passé X années chez toi, qui a atteint tel niveau de performance, même si elle s'en va, tu vois, en fait,
T'es
derrière la
super
personne,
content, t'es super content.
elle n'oubliera pas tout ce que tu lui as appris. Et ça, c'est vachement valuable, tu vois. Enfin, ça, c'est des trucs qui sont en plus de tout ce qu'on a, on a parlé du package, de la rémunération, etc.,
Bien sûr.
etc. Il y a aussi ce gros truc qui n'est pas négligeable, surtout avec les nouvelles générations. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus là-dessus et je trouve ça très bien. il y a aussi la, tu vois, la promesse que tu leur fais de « je vais te faire progresser en fait, je vais te faire devenir une top star dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, et c'est un truc que tu pourras derrière utiliser toute ta vie, quoi. »
Entre parenthèses, j'avais du coup interrogé quelqu'un qui vient de ta première boîte Uptoo et qui disait que c'était vraiment une école de vente. Et je pense qu'eux, ils réussissent pas mal à faire ça, c'est-à-dire que tu rentres et c'est une école de vente, quoi. Du coup, quand ils partent, il y a une espèce de tampon, genre « ok ».
Ça te sert, tu vois. Là, on parle de tout, mais moi, je serais toujours reconnaissant envers cette boîte-là et envers les gens qui m'ont formé à l'époque. C'est que derrière, donc j'étais chez Uptoo, après, je suis arrivé chez Criteo. Et en fait, très rapidement, chez Criteo, en plus, qui n'était pas une boîte très commerciale à l'époque, c'était plutôt une boîte d'ingénieurs où le niveau en sales n'était pas exceptionnel.
Ouais.
Et en fait, moi, j'étais tellement bien formé avec des habitudes, des routines de prospection très dures, etc. Je suis arrivé chez Criteo. En fait, tout de suite, j'ai eu la chance de très, très bien réussir parce que. J'ai été bien formé avant et je pense qu'il faut pouvoir vraiment utiliser chacune des expériences comme un levier et un tremplin pour celle d'après, tu vois. Et c'est ce qu'on doit pouvoir permettre aussi aux gens qu'on recrute de faire par la suite, quoi.
Carrément. Alors, du coup, il y a un autre sujet que j'aimerais toujours sur la partie onboarding, avant de parler peut-être plus des leviers de motivation, c'est justement ce sujet toujours un peu délicat, alors, parce que tu n'en parles pas généralement au moment du recrutement, c'est la présentation des objectifs.
Ouais.
Qui est quand même un moment parfois qui peut être aussi un moment de tension comme pour le variable, mais effectivement t'as présenté peut-être en fait le variable, t'as présenté ce que font les gens, etc., mais que en fait la personne se dise ok, moi j'ai jamais réussi, je veux te dire en toute honnêteté, évidemment les gens faisaient leur objectif, mais j'ai jamais réussi à générer, alors peut-être que c'est un rêve, de que la personne dise punaise, trop bien mon objectif qu'on donne, je suis trop content de l'avoir. Évidemment, c'est un peu challenging, mais j'aimerais bien, en fait, tu vois, trouver un petit peu la recette pour que les gens, tu vois, ils sont contents, tu vois, de, je sais pas, faire 300 000 euros, 500 000 euros l'année, etc. Et je pense que, du coup, je vais peut-être pas avoir la bonne méthode pour que, en fait, les gens ressortent. Ils étaient en mode genre, OK, je vais faire le job. Bon, pour d'autres raisons, ils faisaient le job, parce que je pense que j'étais une bonne manager. Mais tu vois, genre, ce moment où, en fait, tu arrives à avoir le truc de, ouais, je vais y arriver. Si t'as des sujets, je sais pas si
ouais,
ça.
Ouais, alors je pense que j'ai un bon tips pour toi qui est très actionnable, que tu pourras tester avec tes équipes. Avant ça, je pense que c'est un sentiment un peu. Je pense que c'est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est complètement classique. C'est un sentiment complètement humain. T'es sales, tu reçois ta target. Tu veux toujours qu'elle soit plus basse parce que si elle est plus basse, ça veut dire que c'est plus facile de la faire. Et si c'est plus facile de la faire, c'est plus facile d'être au-dessus de la target et de gagner plus d'argent. Tout est lié à l'argent, hein, souvent. Enfin, pas tout, mais il y a quand même, c'est un truc important. Ouais. Et c'est vrai, c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est qu'il faut expliquer comment tu as construit ton target setting. Tu vois, expliquer, bah voilà, l'année dernière, on a fait ça, nos objectifs de croissance, c'est ça, parce que notre vision, c'est d'arriver à ça dans 3 ans. Donc, expliquer un peu le truc et, tu vois, décomposer un peu toutes les phases que vont être les prochaines phases de la boîte pour continuer à grandir. Donc, c'est expliquer un peu tout ce qu'il y a derrière le projet, quoi. Et il y a un tips qui est pas mal, c'est de construire le target setting avec tes sales. Alors, ça ne veut pas dire « donnez-moi, vous voulez quoi comme target ?» parce que bien évidemment, on ne va pas faire ça comme ça. C'est de dire en fait, de se poser de manière individuelle avec chacun d'entre eux et de leur demander ce qu'ils pensent être capables de faire par rapport à ce qu'ils savent déjà faire, par rapport au travail qu'on va faire avec eux pour faire en sorte qu'ils soient meilleurs. Tu vois ? Donc, on est forcément dans une optique d'aller plus haut. Qu'est-ce que eux pensent pouvoir atteindre comme chiffre. Et là, tu décomposes tout le cycle de vente. Bon, tu vois, tu pars du volume d'activité. Combien de calls tu penses qu'on est capable de faire en une journée? Ok, vu nos taux de conversion et vu ton niveau maintenant, et vu, tu vois, vu ce que tu es capable de faire, du coup, vu le nombre d'appels que tu peux faire ou le nombre d'activités, tu vois, en prospection que tu peux faire, combien de deals tu penses que tu peux signer en moyenne dans la semaine, dans le mois, dans le quarter? Ok, ça te donne un chiffre. Si on signe X nombre de deals, le nombre que toi tu me donnes par quarter, vu notre panier moyen, sachant qu'en plus on va aller chercher un peu plus haut parce qu'on vient de changer l'ICP, tu vois, combien tu penses pouvoir faire en CA? Et en fait, à la fin, tu vois, via ce cheminement qui permet aussi de comprendre comment on construit le target setting, en fait, tu vas arriver à sortir en fait une target commune que la personne va te sortir. Soit on est spot on dès le début et on est OK, ça correspond avec toi ce que tu as en tête et c'est nickel. Soit c'est un peu plus bas, et là, toi, tu donnes 2-3 arguments pour expliquer qu'à mon avis, on peut aller chercher plus. Soit c'est plus haut, et là, tant mieux, on est tout de suite d'accord. Mais le tips là-dedans, c'est de, tu vois, de raisonnement avec la personne et lui dire, mais toi, tu penses qu'on est capable de faire combien? Et de faire ça à toutes les étapes, tu vois.
Non, et ça, c'est clair. Super tips. Mais par contre, ça va vraiment avec le fait de toujours bien communiquer sur la vision et le projet de la boîte pour qu'en fait, les... Parce que parfois, il peut arriver le fait que tu fasses ça, que tu sois complètement en décalage parce que justement, tu n'as pas fait tout ce travail d'expliquer voilà où on y va, comment on a construit le truc, pourquoi on en est là aujourd'hui, etc.
Exactement.
Donc voilà, en tout cas, je pense que super tips. On a quand même pas mal parlé d'onboarding. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu arrives à checker que l'onboarding, il est réussi ou pas. Personne, tu vois, genre, tout le monde parle de ces stratégies d'onboarding. Moi, j'aimerais bien me dire, en fait, c'est quoi les KPI que tu suivrais pour la partie sales, évidemment. Je pense qu'il y en a pour tous les types
Ouais.
de postes. Mais sur le poste sales, qu'est-ce qui te fait croire? Enfin, quand tu vas dans une boîte, tu regardes leur onboarding, qu'est-ce que tu regardes pour savoir si ça marche? C'est le CA?
Alors oui, bien évidemment, il y a des unités de mesure qu'il faut regarder. C'est est-ce que tu vois, on est on track, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à ce qui se fait d'habitude, est-ce qu'on est on track? Est-ce que sur les targets de ramp-up, on y est? Si on n'y est pas, quel est le gap? Et qu'est-ce qui explique ce gap-là? Parce qu'il y a des raisons qui sont graves, d'autres qui sont moins graves. Donc, il y a vraiment des unités de mesure très précises, sales. Et là, bon, c'est parfois un peu binaire. Puis, je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est sentir. Alors, ça, c'est plus dur à faire maintenant qu'on est en remote. Et moi, c'est vrai que sur des équipes sales, j'aurais toujours la recommandation, tu vois, au maximum, il faut être au bureau ensemble. Mais c'est sentir,
Ah
tu
ouais.
vois, comment
D'accord.
se sent la personne. Ouais, clairement. Mais c'est comment se sent la personne dans la boîte, tu vois, et dans l'équipe. Et donc ça passe par, tu vois, au bout de 3 mois, tu fais un premier 3 months review avec la personne où c'est pas seulement, vas-y, on check tes chiffres, c'est comment tu te sens en fait avec nous, comment tu te sens dans l'équipe, comment tu te sens dans la boîte, est-ce que ça correspond aux attentes que tu avais avant d'arriver, etc. Et ça, c'est un truc un peu qu'on a tendance un peu moins à faire, mais sentir le niveau d'intégration de la personne dans l'équipe, ça, c'est un élément super important et ça se fait par plein de petits détails. C'est pour ça que le fait d'être au bureau, ça facilite tout le
Ouais,
truc, mais...
ça,
Et tu
d'accord.
vois comment la personne interagit avec les autres sur le floor. Est-ce qu'elle va déj avec les personnes de l'équipe, tu vois, ou est-ce qu'elle est plutôt solo? Tu as des gens qui sont solo, et d'ailleurs, c'est fine, mais il faut pas que ce soit un truc pas voulu, tu vois. Donc, il y a toute la partie unité de mesure, et là, tu suis les métriques et tu vois si on est un track ou pas. Ça, bon, c'est assez simple, entre guillemets, à checker. Mais il y a surtout aussi, je pense, l'intégration, le niveau d'intégration et le cultural fit. Est-ce que le cultural fit, il s'est bien fait avec la team, quoi? Ça, c'est vraiment important. Et puis derrière, après, de manière un peu plus processisée et structurelle, il y a plein d'éléments à regarder pour voir si ton onboarding il est bien fait. Tu vois, c'est beaucoup de pratiques. Moi, je vois beaucoup de trucs où on passe beaucoup de temps sur l'industrie, sur le produit, sur machin, etc. Donc ça, oui, il faut le faire. Mais trop souvent, il n'y a pas assez de pratiques. Il n'y a pas assez de roleplay. Il n'y a pas assez de shadowing. Il n'y a pas assez de peer roleplaying. Tu vois, enfin, il y a pas. Voilà, c'est beaucoup de pratiques. Et voilà. Et après, les unités de mesure, tu les suis à la semaine, quoi.
Ok, nickel. Bah, du coup, nous passons un petit peu au lever de motivation parce qu'effectivement, on a parlé de
Ouais.
recrutement, mode de rémunération et onboarding. Ensuite, il faut garder les gens pour avoir les bonnes équipes. Ça, c'est aussi une autre paire de manches. C'est quoi les leviers de motivation et les systèmes de reconnaissance qui marchent aujourd'hui avec justement cette nouvelle génération qui ne marche pas à la pression du tout? On va plutôt parler de la nouvelle génération, hein, voilà. Qui ne marche pas à la pression, qui le variable, oui, évidemment, l'argent est important, mais il n'y a pas que ça. Du coup, c'est quoi pour toi, en fait, les trucs
Ben moi, ce que je vois justement avec les nouvelles générations, enfin c'était déjà le cas avant, enfin c'était déjà le cas avant, ça avait déjà son important, une importance forte avant, mais maintenant c'est numéro un, c'est le temps que tu vas passer en tant que manager avec eux en fait, le temps que tu vas passer, tu vois, sur donner des feedbacks, faire des roleplay, apprendre des choses à la personne, tu vois, de manière continue. Ça, c'est le levier numéro un pour moi de motivation des jeunes générations pour les garder motivés et les sentir qu'ils font partie d'un projet et que si tu arrives à leur dire un jour, tu vois, si tu arrives à faire tous les conseils que je te donne, toutes les recos, si tu arrives à les appliquer, à les exécuter au maximum, tu vas arriver à monter en fait, c'est sûr et certain. Sois patient, prends le temps de le faire, parce que bien souvent maintenant, de plus en plus, tu vois, on veut aller vite, on veut passer team lead, on veut machin, etc. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est viens, on passe énormément. Moi, je vais tout faire pour faire en sorte que tu passes au niveau d'après le plus vite possible. Mais regarde, on va passer énormément de temps ensemble. Et donc ça, c'est le truc numéro un. Le truc numéro deux, c'est effectivement la recognition. Et ça, c'est vraiment un sujet super important, la reconnaissance. Je me rappellerai toujours, moi, un jour, j'avais été promu sur un nouveau job chez Criteo avec un manager du coup que je connaissais, mais avec qui j'avais jamais travaillé. La première question qu'il m'a posée pendant le premier one-to-one, c'est comment est-ce que tu aimes être reconnu? Tu vois, et je me rappelle, j'avais eu du mal on m'avait jamais posé cette question-là, et du coup, je savais pas trop quoi répondre, et donc, du coup, j'y ai réfléchi après. Mais je pense que c'est une super question à poser dès le début, c'est comment tu aimes être reconnu. Il y a des gens qui aiment bien être reconnus individuellement, en privé, tu vois, machin. Il y a des gens qui aiment la reconnaissance collective, en public. Il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec ça. Donc, je pense que c'est important de demander dès le début aux gens comment ils aiment être reconnus. Et puis ensuite, il y a des logiques et des automatismes de recognition programme qu'il faut mettre en place. Chez Crypto, à l'époque, on avait fait un truc trop bien. C'était la Sales Award cérémonie. Tu vois, chaque quarter, on faisait un truc. T'es pas obligé d'avoir des grosses équipes pour faire ça. Hein. Tu peux le faire à petite échelle aussi, mais avoir des moments où tu fais de la recognition, tu fais ça de manière sympa. Il y a plein de formats. Je ne vais pas en parler maintenant parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, mais vraiment mettre en place des instances de reconnaissance où tu reconnais la performance de certains individus ou
Si je peux
d'une
me
équipe.
permettre, ce serait un super contenu que tu pourrais produire. Franchement, ce serait vraiment
Ouais,
cool.
voilà. Mais moi, à l'époque, c'est un sujet sur lequel j'avais. C'est moi qui avais lancé le programme Recognition pour toutes les équipes sales sur IMIA chez Criteo. Et je prenais un plaisir énorme à faire ça. On faisait des trucs de fou et tout, avec une super ambiance. Et c'est énorme de faire ça. Et ça, les gens, quand ils sortent d'un truc comme ça, comme quand tu fais un off-site, tu
Ouais.
vois, en fait, ils se disent, ah ouais, putain, je suis content. Enfin, c'est l'objectif en tout cas, mais. Je suis content d'être dans cette boîte. Ils ressortent, ils sont gonflés à bloc. Et puis sur le quarter d'après, ils ont envie que ce soit eux qui soient sur la scène avec l'Award, tu vois. Donc voilà, il y a des trucs comme ça. Et puis après, il y a toutes les logiques de sales floor animation que tu peux mettre en place, que tu dois mettre en place tous les mois, tous les quarters. Tu fais de la gamification, tu organises des spiffs, des compétitions, des blitz par équipe, tu vois. Voilà, c'est le sujet des leviers de motivation et de l'animation des équipes sales, c'est aussi un gros sujet à part entière,
Donc,
quoi.
ça c'est un part entière. Ouais. Bon, en tout cas, tu as donné pas mal d'éléments et j'ai bien aimé ta partie sur la partie management, d'être présent parce que bah, du coup, avec tout ce truc de remote où effectivement, ça demande d'être hyper créatif pour être présent.
Ouais.
Et aussi pour cette partie reconnaissance parce que bah, quand même, la reconnaissance, ça passe quand même pas mal par le physique. Tu peux dire, passer un coup de fil et je suis super content. C'est jamais pareil, aller prendre la personne, aller manger avec lui, ça a plus d'impact. Du coup, ça va poser plein de questions, je pense, 2024-2025 sur comment on organise nos équipes, comment on fait en fait pour pouvoir reproduire ça en remote, parce que je pense qu'on va plus là-dessus. Dernier sujet, parce que pour clôturer un petit peu cette discussion, moi, il y a un truc que je trouve qui, on en a un peu parlé avec l'onboarding, mais qui manque, c'est comment faire évoluer les membres au-delà. De l'onboarding. Et du coup, comment faire évoluer les gens? Typiquement, tu as toujours cette pression de dire, bon, cette personne-là, elle est bien, il va falloir que je la passe sales manager. Mais tu sais qu'en fait, c'est une balle dans le pied.
Ouais.
Parce que bah, déjà, si tu ne le prépares pas bien, tu peux te mettre ton organisation en danger en termes de chiffres. Mais au-delà de ça, c'est aussi. Voilà, comment tu fais pour répondre aux enjeux de gens vouloir progresser? On vit dans le monde dans lequel on est, on peut espérer un monde différent, mais les gens, ils considèrent que c'en est managant des gens qui progressent. Du coup,
Ouais.
comment tu fais pour faire évoluer les gens sans prendre de risques?
Alors, ça, c'est un sujet très sensible et bon, depuis qu'on a créé AtScale, on a bossé avec une cinquantaine de scale-up, dont certaines très, très, très connues. Hein. Et en fait, il y a un dénominateur commun entre toutes ces boîtes-là, c'est qu'elles font toutes la même erreur, qui est assez légitime et qui se comprend assez bien, mais c'est de faire passer des gens effectivement sur des rôles de management, alors que soit c'est trop tôt, ou soit elles ne sont pas faites pour ça. Ou alors, soit, troisième raison aussi, enfin, troisième écueil, c'est on n'a pas assessé la personne sur ses capacités à devenir un vrai manager. Donc, je crois que ça, c'est le problème numéro un, tout problème confondu qu'on voit, et il y a des répercussions qui sont assez, assez graves derrière,
Clairement.
parce que on a des anciens top performers qui passent sur des jobs de management qui ne sont pas faits pour, qui vont du coup mal le faire, qui vont du coup être en échec, et du coup, en fait, on va perdre des personnes de qualité qui étaient en grand succès avant, qui sont maintenant en situation d'échec, on perd des gens de qualité. Donc, il y a vraiment une importance qui est cruciale à créer le plus tôt possible, et ça, je le dis à tout le monde, même quand on est très early, à créer un career path, en fait. Un career path avec un competency framework où on va définir des niveaux dans la boîte. Pour chaque niveau, on va expliquer en détail quels sont les niveaux d'attente, qu'est-ce qu'il faut savoir maîtriser. Et ça permet deux choses. Ça permet d'une part aux gens de se projeter dans la boîte, OK? Et de ne pas se poser la question tous les 4 matins, mais c'est quoi le next step pour moi? Est-ce que je vais être promu un jour? Est-ce que machin et tout? Et le deuxième point, ça permet de rationaliser des décisions de promotion ou de non-promotion. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui est là depuis 12 mois, 18 mois, 2 ans et qui veut absolument passer manager, etc., si on a ce référentiel de compétences clés pour devenir manager, qu'on le met en face de la personne et que via des faits très précis, on lui explique qu'il n'y est pas encore pour telle et telle raison, bah, ça lui permet de comprendre, d'une part, pourquoi elle ne va pas être promue maintenant, et ça nous permet, à cette personne-là et à nous, managers, de mettre en place un programme de développement individuel, qu'on appelle souvent IDP, Individual Development Plan, sur lequel on va cibler deux ou trois actions pour faire en sorte que d'ici 3, 6, 9 mois, elle soit au niveau alors qu'elle n'y est pas aujourd'hui. Tu vois.
Yes.
Donc ça te permet d'éviter de perdre des gens qui ne sont pas promus tout de suite, à qui tu dis non, ce n'est pas encore pour maintenant, mais tu vois, de pouvoir quand même les projeter. Donc ça, c'est vraiment le sujet et l'erreur numéro un qu'on voit partout, c'est voilà, cette promotion des gens trop tôt. Donc il faut expliquer pourquoi ce n'est pas encore possible. Il faut expliquer que trop tôt, ce n'est pas une bonne chose non plus. Et puis, il faut expliquer, savoir expliquer aux gens à un moment donné qu'en fait, il y en a qui ne sont pas faits pour ça, quoi, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc qu'on voit numéro un. C'est classique, c'est l'erreur classique. T'as des top performers, ils font 150% de leur target tous les quarters. Tu te dis naturellement que bah, si il a réussi à le faire pour lui, il réussira à le faire pour les autres. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, tu vois. Enfin, c'est parfois le cas, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut vraiment assesser la capacité des gens et vraiment les challenger sur pourquoi tu veux devenir manager. Il y a un exercice qui est vachement bon pour ça, c'est les 5 why. 5 fois pourquoi, tu vois. Tu poses 5 fois pourquoi. Et pourquoi tu veux devenir manager? Ah bah parce que j'aime bien aider les gens. Ouais, mais pourquoi? Ah bah parce que. Au bout du troisième pourquoi, souvent tu te rends compte que les gens ils sont complètement paumés.
Ils ne savent pas réfléchir. Ils savent pas pourquoi, c'est juste parce que. Ouais.
C'est juste parce que ça fait bien, tu vois, de devenir manager. Mais c'est pas forcément la meilleure option. T'as d'autres options, devenir senior sur ton rôle, faire d'autres choses, bosser sur des projets stratégiques, machin. Voilà. Il y a plein d'autres possibilités dans les boîtes que des jobs de management.
Complètement. Du coup, je vais conclure là-dessus et pour te poser une question. Du coup, est-ce que tu penses qu'il doit avoir aussi également, ça doit, pour résoudre ce problème, il doit avoir un changement de culture, parce que ça arrive d'avoir des top performers où on va avoir un problème, notamment parce qu'on va se dire qu'on va être rigide sur la grille de rémunération, etc. Alors qu'on peut très bien imaginer, je dis n'importe quoi, hein, mais qu'un top performer soit largement mieux payé qu'un manager de la boîte, parce que voilà. Et ça, ça peut être un truc que tu peux valoriser en disant, écoute, moi, je ne pense pas que tu peux être un bon manager. Par contre, je pense que tu peux être un excellent et continuer à être un top performer, avoir des comptes beaucoup plus stratégiques, rentrer au cœur vraiment de la machine. C'est-à-dire que demain, on doit développer un nouveau segment, que tu sois là parce que tu as une telle connaissance en fait, de la vente que voilà, tu seras incroyable. Par contre, la manière de Triward, ce n'est pas le titre, mais c'est un boom de salaire et que ça puisse être dit. Tu penses que c'est... Je te demande ça parce que est-ce que c'est une illusion? Ça puisse être dit... Bah, ce type-là, il est mieux payé que les sales managers.
Bah, alors, non seulement ça peut être dit, ça doit être dit, mais c'est surtout très souvent le cas, en fait. Tu vois ?
Okay.
C'est surtout très souvent le cas. Comme on parlait un peu plus tôt de la rémunération des contributeurs individuels dans des environnements mid-market, enterprise, sur des sales seniors, il est assez fréquent de voir des contributeurs individuels qui sont bien mieux payés que des managers et qui, en plus, dans leur day-to-day, ont, entre guillemets, beaucoup moins d'emmerdes. Parce que être manager, ça fait bien sur le papier et c'est fait cool pour raconter aux copains, mais c'est quand même aussi beaucoup de problèmes, tu vois, de challenges, people, on gère de l'humain, etc. Donc, au day to day, c'est pas évident. Ça peut impacter ton moral, ça peut impacter, tu vois, ta santé mentale, ça peut, tu vois, parce que tu prends les problèmes des gens, tu les ramènes chez toi le soir, ça s'arrête pas au bureau. Alors que quand t'es contributeur individuel, tu gères ton business, tu vois. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut être un loup esselé tout seul et faire son truc tout seul, mais. Donc au-delà de la rémunération, et il faut donc oui, il faut dire que oui, c'est le cas parce que c'est vrai, tu vois. Tu peux gagner beaucoup plus d'argent en étant contributeur individuel qu'en étant manager, et puis tu as aussi moins de problèmes au quotidien, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à encourager les gens qui sont pas faits pour ça à leur dire et à les encourager à continuer sur de la contribution individuelle, comme tu disais, sur des comptes plus strat, sur des super deals avec des super paniers moyens, des cycles de vente complexes, etc. C'est vachement intéressant aussi.
Ok, nickel. Si tu avais un dernier conseil à donner à une boîte pour justement construire cette meilleure équipe de vente, s'il y a un truc sur lequel de retenir, ce serait quoi?
Passer du temps avec les gens une fois qu'ils sont là, le plus de temps possible. Ne pas recruter trop d'un coup parce que ça, justement, ça dilue le temps qu'on peut passer avec chacun. Mais je pense que le travail de tout bon manager, de tout bon CEO, de toute bonne personne qui recrute quelqu'un, c'est l'humain, c'est le meilleur asset qu'on a dans une boîte. Tu ne feras jamais une boîte tout seul, tu ne construiras jamais une aventure entrepreneuriale tout seul, etc. Donc, c'est passer du temps et investir le plus possible dans les personnes qu'on a avec nous dans l'équipe.
Nickel. Eh ben, écoute, merci énormément, Pierre, et pour tout ce que tu as partagé. Et puis, je souhaite beaucoup de réussite à Scale et à bientôt. Ciao, ciao.
Bah, merci, Laetitia. À bientôt.
C'est déjà la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous repartez avec assez de matériel pour exploser vos ventes. Si vous n'en avez pas eu encore assez, abonnez-vous à Vendu dès maintenant sur votre appli de podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site web www.vendu.fr où vous trouverez plus de contenu. Par exemple, tous les 15 jours, je décortique une vente que j'ai conclue ou ratée de A à Z pour partager mes meilleures stratégies. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.